Ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums. On ne refera pas les mêmes erreurs pour la suite. Une déclaration d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est exprimé sur le dossier calédonien. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a également participé au sommet France-Pacifique en marge de la conférence de l'ONU à Nice. Il estime que la participation de la Nouvelle-Calédonie était importante à ce rendez-vous. À Saint-Louis, après les incendies à répétition dans l'école de la tribu, des mamies s'organisent pour protéger les bâtiments de la DEC et éviter le retour d'incendiaires sur les lieux. Les préparatifs du pèlerinage de Téné et le rassemblement des jeunes à Bouraï, ils ont reçu aujourd'hui la visite de Monseigneur Sione Poé, l'archevêque de Nouméa. 8 entreprises calédoniennes à Paris pour le salon Vivatech, le rendez-vous mondial de la tech qui débute ce soir dans la capitale. Des activités variées pour les jeunes nouméens, actuellement en vacances, c'est le programme Proxicité, destiné aux 8-26 ans, gratuit pour les participants. Et le trail des Cagous, c'est ce dimanche. Plusieurs parcours seront proposés sur la commune de Boulou-Paris, au départ de la baie de Bouraquet. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tous, savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Emmanuel Macron veut un projet nouveau pour la Nouvelle-Calédonie. Lors d'un sommet entre la France et les pays du Pacifique, à Nice, le président de la République estime que les référendums ne sont pas adaptés aux cultures locales et il annonce un sommet à Paris dans les prochaines semaines pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir ce projet nouveau, Elisabeth Noir.
Emmanuel Macron confirme donc qu'il reprend l'initiative dans le dossier calédonien. Lors du sommet France-Pacifique qui se tenait à Nice en marge de la conférence de l'ONU sur les océans, le président de la République a dit effectivement qu'il voulait un projet nouveau pour la Nouvelle-Calédonie et c'est la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprime directement sur le sujet depuis le communiqué succinct publié le 28 mai par l'Élysée pour indiquer qu'il inviterait les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à venir travailler à Paris. Le chef de l'État a donc choisi le sommet France-Pacifique et il s'exprimait devant les dirigeants de la région mais aussi le président Alcide Ponga pour préciser son positionnement. Et il a d'abord voulu rassurer les dirigeants du Pacifique qui ont pu être préoccupés par les événements qui ont déstabilisé la Nouvelle-Calédonie il y a un an. Il leur a aussi rappelé le résultat des 3 référendums.
L'État français, d'abord, a respecté ses engagements pris il y a des décennies en organisant ces dernières années 3 référendums avec des observateurs des Nations Unies qui ont été validés et constatés. 3 référendums qui étaient prévus par les processus que nous avions pensés dans les années 80 et 90. Ceux-ci ont permis une expression de maintien dans la République française. Mais il y a un an, une violence s'est déchaînée, qui a eu plusieurs déclencheurs, je n'y étendrai pas ici, mais que nous avons prise très au sérieux. L'État français s'est fixé pour priorité la reconstruction du territoire avec la mobilisation à ce jour de plus de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros.
Emmanuel Macron a ensuite évoqué les discussions sur l'avenir institutionnel avant de confirmer la tenue d'un sommet à Paris pour trouver un projet nouveau.
Nous n'avons ménagé avec le gouvernement, en particulier le ministre d'État, je remercie, aucun effort pour le retour du dialogue entre toutes les parties. Un très gros travail a été fait ces derniers mois en lien avec tous les élus et nous tiendrons dans les prochaines semaines un sommet à Paris pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir à projeter au fond, avoir un projet nouveau. Je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est toute la difficulté de ces processus, d'abord qui prévoient des référendums où on dit oui ou non.
Le chef de l'État donne enfin son sentiment sur l'exercice du référendum. On ne refera pas les mêmes erreurs pour la suite, affirme Emmanuel Macron, qui estime que les référendums ne sont pas adaptés aux cultures du Pacifique.
Je dois dire que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums, en vérité. Ce sont des cultures de concertation où, je dirais, la circularité est plus adaptée à caractère tranché du oui ou non, mais nous avons hérité de ce processus. On ne refera pas les mêmes erreurs pour la suite. Et ensuite, chacun était mis un peu face au vide qui était l'absence d'un projet nouveau après ces 3 référendums. Et donc c'est ça que nous sommes en train de bâtir avec beaucoup d'humilité, tous ensemble. Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, on va tout faire pour réussir et je suis confiant. On va le faire dans le respect de toutes et toutes et pour toutes les Calédoniennes et les Calédoniens et aussi pour la paix dans la région.
Et après l'échec des discussions sur l'avenir institutionnel, le président de la République, qui s'exprimait en présence de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, confirme qu'il tiendra dans les prochaines semaines un sommet à Paris pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir ce projet nouveau. Un positionnement qui satisfait le député Nicolas Metzdorf, tout juste rentré de Paris, où il a, on le sait, rencontrer le président de la République.
J'en retiens trois choses rapidement quand on lit entre les lignes. La première, c'est que c'est bien lui qui reprend le dossier aujourd'hui parce que c'est lui qui s'exprime sur la Nouvelle-Calédonie, qui donne le tempo des discussions et qui donne le fond de ce qu'on va débattre. La deuxième chose, c'est qu'il rappelle que la Calédonie a choisi d'être française avec les trois référendums. Donc, il considère qu'aujourd'hui, le prochain statut sera dans la France. Et la troisième chose, c'est que lui, il n'est pas pour un référendum binaire qu'on aurait à faire dans les prochaines années, puisqu'il a très clairement dit qu'aujourd'hui, les référendums, c'est plus la façon de faire en Nouvelle-Calédonie, qu'il faudrait un nouveau statut, on croit comprendre définitif, ou en tout cas qu'il n'y ait plus de référendum qui oppose les Calédoniens entre le oui et le non à l'indépendance. Donc, un, il maîtrise le dossier, deux, la Calédonie est française, trois, on ne va plus reconnaître de référendum binaire. Donc je pense que c'est plutôt pas mal.
Et selon le député de la première circonscription, les invitations devraient partir incessamment pour un rendez-vous qui devrait avoir lieu à Paris le 2 juillet avec un format institutionnel et politique et un format économique et social qui permettra d'évoquer le nickel et les problèmes de reconstruction et de développement économique.
Et c'est lors du sommet France-Pacifique que le président de la République s'est exprimé sur la Nouvelle-Calédonie. Ce sommet se tenait à Nice, en marge de l'UNOC, et de nombreux dirigeants de la région étaient présents, ainsi que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, ou encore le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga, qui estime importante la participation de la Nouvelle-Calédonie à ces sommets, et notamment à l'UNOC, la Conférence des Nations Unies pour les Océans. Il relève que les Outre-mer sont parfaitement représentés et pris en compte par l'État.
C'était important, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, de participer. D'ailleurs, je note également la participation et une représentation des travaux qui a été portée par le Sénat coutumier. Donc, il y a M. Jean-Yves Poidy qui est ici avec les jeunes qui ont travaillé dessus, accompagné par le Conservatoire international. Donc tout ça, c'est important pour nous de participer à ça, d'autant plus que ça se passe à Nice, organisé par le gouvernement français et le Costa Rica. La Direction générale de l'Outre-mer a organisé avec l'ensemble de l'Outre-mer français et notamment les territoires du Pacifique un stand qui s'appelle « Les Trois Océans ». Et donc avec les différents défis qui se dressent devant nous. C'est l'occasion pendant cette semaine pour les spécialistes, les scientifiques, les financeurs également de tout ce qui tourne autour des protections marines, de partager, d'échanger sur les défis qui sont devant nous.
Alcide Ponga, le président du gouvernement. Au cours de ce sommet de Nice, la Nouvelle-Calédonie s'est notamment engagée dans l'IPOS, qui est la plateforme internationale pour la durabilité de l'océan. Dans l'actualité également, ce coup de sang des membres indépendantistes du gouvernement. Adolphe Digoué, Gilbert Thuyénon, Michael Forest, Claude Gambet et Samuel Népéoun ont décidé de ne pas siéger ce matin en séance du gouvernement. Dans un communiqué, ils expliquent que les conditions n'étaient pas réunies pour que la séance se tienne normalement, Elisabeth.
Les cinq membres indépendantistes de l'exécutif mettent en cause l'absence de quatre membres du gouvernement, dont le président, sur les six de la majorité non-indépendantiste qui, et je cite, « a pris la responsabilité de s'accaparer le gouvernement ». Ils invoquent la situation économique et sociale extrêmement sensible de la Nouvelle-Calédonie pour affirmer qu'il n'est pas justifiable que les membres de la majorité s'absentent hors du pays pendant des semaines pour des motifs tout à fait secondaires. Et ils dénoncent un comportement irresponsable au moment où doit se tenir, ce jeudi 12 juin, un séminaire au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour étudier le plan de réforme fiscale et sociale du pays. Renseignements pris auprès du cabinet de la présidence, la séance de ce matin aurait dû se tenir normalement sous la présidence de Thierry Santa, qui est à Nouméa. Le président Alcide Ponga devait y participer en visioconférence après avoir participé à Nice au sommet France-Pacifique. On en parlait il y a un instant. Petelo Sao de l'éveil océanien est également en Nouvelle-Calédonie. Une participation de 8 membres sur 11 qui aurait pu permettre la tenue de la séance hebdomadaire si les 5 membres indépendantistes n'avaient pas décidé de bouder cette séance. J'ajoute que parmi les absents, Christopher Gigès participe au salon Vivatech qui s'ouvre demain à Paris. Et Jérémy Catidjo-Monnier participait à Nice à l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Mais apparemment, c'est plutôt l'ordre du jour de la séance, avec un texte sur la continuité territoriale qui a conduit les cinq membres indépendantistes à ne pas siéger. Et en conséquence, la séance hebdomadaire de ce matin n'a pas pu se réunir.
À Saint-Louis, au Mont-d'Or, l'école catholique a été la cible d'un nouvel incendie hier soir. Désormais, la protection des bâtiments s'organise après ces 3 départs de feu criminels consécutifs en 3 jours sur le site qui accueille d'ordinaire une quarantaine d'élèves, des maternelles jusqu'au CM2. Les mamies de Saint-Louis et les parents d'élèves se mobilisent maintenant, vu la gravité de la situation. L'une de ces mamies a accepté de témoigner à propos de cette organisation spontanée pour protéger l'école.
C'est pour les enfants, hein, qu'on fait ça, hein. Ça fait très mal au cœur, on est tous passés par là, on a fait l'école dans cette école, nos parents, nos grands-parents et tout. Voilà quoi. C'est triste de voir de venir saccager l'école alors qu'on essaye de garder l'école depuis les émeutes aussi. Voilà, ça fait mal au cœur quoi. On reste là, on surveille pour qu'ils ne brûlent pas les autres bâtiments. Là, il était tout seul hier à venir brûler la maternelle. Il attendait qu'on partait, le temps d'aller se préparer et puis revenir monter la garde. En un pas de seconde, on est arrivé. Il a foutu le feu, on a réussi à éteindre, à contacter les gendarmes et puis les pompiers. On est resté là, on a dormi ici à l'école, on a surveillé, on est encore là, on est tous partis se préparer, on est revenu ici. Après, on n'est pas prêt de partir, de retourner à la tribune, on est obligé de rester ici à l'école pour surveiller. Non, c'est pas possible de brûler l'école alors que c'est pour les enfants. Les mamans qui bougent, on va pas baisser les bras, on est là.
Et désormais, durant ces vacances, il faut déjà réfléchir à la suite concernant les écoliers. Manuel Van Arscott est le directeur de la DEC, la Direction diocésaine de l'enseignement catholique.
Nos deux principaux bâtiments, là où il y a les salles de classe ainsi que le pôle administratif, avaient été brûlés hier matin et hier soir, c'est le bâtiment où il y a les salles de maternelle. Donc toutes les salles où on aurait pu faire des cours ont été atteintes. Voilà, les bâtiments ont souffert. Je ne sais pas encore en quelle mesure parce qu'il faudra que les spécialistes passent, vu le dégagement de chaleur, de fumée, etc. Pour l'instant, nous ne pourrons pas réintégrer ces classes. On a des bâtiments tout au fond que nous prêtions ponctuellement à la mairie. Donc on va voir si on peut les récupérer et si surtout on peut y remettre des salles de classe si ces bâtiments sont viables.
Une vigilance citoyenne s'est donc organisée en attendant de savoir quelles décisions seront prises pour faire en sorte que les enfants soient le moins pénalisés après les vacances scolaires. À Thouot, l'expulsion des individus reconnus par les coutumiers comme responsables de troubles s'est déroulée hier. Une soixantaine de gendarmes étaient mobilisés depuis plusieurs jours pour éviter que la situation ne dégénère. Plusieurs clans, on le rappelle, étaient impliqués dans ce conflit. Et c'est donc sous haute escorte des gendarmes que les 22 individus qui, selon les gens de l'endroit, provoquaient ces troubles, ont dû quitter les lieux avec leurs familles. Soit en tout une quarantaine de personnes qui ont dû partir de Thouot en direction de Yengen. Des enquêtes devront toutefois se poursuivre pour faire toute la lumière sur les situations de violence et les exactions. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a exprimé sa vive préoccupation et adressé un appel solennel au calme, à la responsabilité et à la retenue. Il a tenu à rappeler avec fermeté que, je cite, « la violence ne saurait être une réponse acceptable à un différent, quel qu'il soit. Elle ne mène qu'à l'escalade, à la souffrance et compromet gravement la paix sociale ainsi que la cohésion entre communautés. » Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, comprenez-vous que 40 personnes puissent être expulsées et exclues de leur tribu à tout haut? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie est en train de redevenir un enjeu de politique nationale. Ils sont 11% à ne pas partager cet avis. Vos rendez-vous d'antenne, c'est une aventure scientifique et humaine. Mathieu Juncker, biologiste, marin de formation et ancien directeur de l'œil en Nouvelle-Calédonie, a passé près de 8 mois sur un atoll isolé des Tuamotu. Il a pu observer de façon privilégiée la vie marine et terrestre et ses bouleversements. À l'heure où la planète se penche sur le sort des océans, il sera notre invité demain matin à 7h30 pour nous parler à la fois de son aventure mais aussi de sa vision de la protection des océans. Maintenir la commande publique pour soutenir le secteur du BTP. Le thème demain à midi au cœur des Jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu, alors que la province sud annonce avoir mobilisé 12 milliards de francs, dont 6 milliards et demi injectés directement via des appels d'offres. Nous en parlerons avec Jean-Pierre Brément, directeur de l'ADEME à la province sud, qui synchronise tous les travaux, avec Christophe Dautieux de l'entreprise ACTB, Stéphane Lutringer de l'entreprise TCE et Thomas André de l'entreprise ATEP. Présent également Éric Lafitte de l'entreprise Arbé, élu il y a quelques jours président de la Fédération calédonienne du BTP. Il est 18h, une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Soma Bay World Cup. Alors vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Soma Bay World Cup, le samedi 14 juin en formule Stableford au golf de Deva. Inscription par téléphone à Deva au 20 70 16.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Weekend, Michael Juneski.
Au tribunal administratif, le juge des référés a suspendu hier la condition de 10 ans de résidence pour pouvoir bénéficier des bourses scolaires et universitaires en province sud. Jean-François Baudin.
Cette condition avait été instituée par une délibération provinciale du 15 juillet 2024 face à la crise engendrée par les violences de mai. La province a enregistré une baisse de 28% de ses recettes fiscales l'an dernier. Le tribunal administratif avait été saisi par l'UGPE. L'instance ne juge pas encore l'affaire sur le fond et elle donne un délai d'un mois à la province pour réétudier son dispositif, en admettant le caractère urgent avancé par l'UGPE pour les élèves et étudiants concernés. Le tribunal précise que cette ordonnance de référé constitue une mesure provisoire et qu'il se prononcera ultérieurement sur le fond du litige qui oppose l'UGPE à la province sud concernant l'attribution des bourses scolaires et universitaires, soumises à une condition de résidence d'au moins 10 ans sur le territoire de la province sud. Dans un communiqué, la province indique qu'elle fait appel de la décision du juge des référés. Elle rappelle que la légalité de cette délibération et notamment du critère de durée de résidence avait été confirmé par le tribunal administratif lors d'un premier jugement en juin et évoque la situation budgétaire pour justifier de cet appel. Nicolas Panier est le secrétaire général de la province sud.
C'est un appel qui est motivé par le fait que la situation financière de la province n'a pas changé. Non seulement en plus de la clé de répartition, on subit une baisse de nos recettes fiscales majeures depuis les exactions qui ont été engagées l'année dernière. Donc la province continue de disposer de moins de moyens, c'est ce qui avait présidé à la prise de cette décision en Assemblée de province le 15 juillet de l'année dernière. Et c'est un point qui avait été confirmé par le tribunal administratif dans un jugement du 17 avril. Donc la situation n'ayant pas changé, la province souhaite mettre en avant cet argument pour ne pas revoir les conditions d'attribution et le délai de résidence pour les bourses scolaires et universitaires.
La décision du tribunal administratif est donc une procédure en urgence. En attendant, vous l'avez compris, l'audience au fond sur ce dossier.
En bref, des perturbations sur la voie express à Nouméa ce matin vers 7h. Un homme s'était hissé en haut de la passerelle dite du Caillou Bleu. Il voulait mettre fin à ses jours en sautant du pont. Une équipe de la police municipale a pu le secourir avec l'aide d'un camion frigorifique, ayant prêté assistance aux policiers. L'homme a été conduit au Medipôle afin d'être pris en charge par des services spécialisé. L'intervention a toutefois provoqué une paralysie de l'axe routier pendant plusieurs minutes.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraï, c'est le 99.
L'actualité religieuse, l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Sione Poé, était ce matin à Bouraï, Charlotte Coulson.
Il a été accueilli par le maire de la commune, Patrick Roblin, avant de rejoindre le site du rassemblement de Téné. Pour Monseigneur Sione Poé, c'est une joie de voir ces jeunes réunis sur ce site marial afin d'apprendre et d'approfondir leur foi.
Je suis très heureux d'être accueilli, tout d'abord auprès de M. le maire, et ensuite par le responsable et toute la jeunesse ici dans ce site de Notre-Dame. C'est une grande joie, puisqu'on voit qu'à travers leur présence, il y a cette soif de la recherche, de connaître de plus en plus celui qui dont ils croient, le Seigneur. Cette année, c'est l'année du jubilé, pèlerin de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. C'est que malgré nos difficultés, malgré les épreuves, il faut toujours garder la foi. Il faut toujours avoir confiance en celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Donc c'est là où est nourrie, vécue notre espérance. C'est notre foi en celui qui nous a aimés.
Et pour ces jeunes, c'est une chance de rencontrer l'archevêque de Nouméa.
On a chanté des chants de louange. On s'est divisé en deux groupes. Il y avait un groupe qui a préparé une danse, puis un autre groupe qui a chanté pour l'accueillir.
On a préparé une danse et un chant. La danse, c'est Abrite-moi et le chant, faudrait être.
C'est une grande opportunité et c'est important, surtout quand on ne le connaissait pas, qu'on est heureux de l'accueillir. et qu'on lui montre la gentillesse qu'on a. C'est une chance de, qu'on rencontre le manteau de notre Seigneur et qu'on a pu avoir aussi une bénédiction. Et c'est un grand honneur parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer le Monseigneur. Du coup, voilà.
Ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien parce qu'il est venu de chez nous, à Bourail. Et ben, ça fait du bien.
Et rappelons que le thème de ce rassemblement de Téné 2025, c'est celui du jubilé. L'espérance ne déçoit pas.
8 entreprises calédoniennes vont exporter leur savoir-faire à Paris. Dès ce soir et jusqu'au 14 juin, elles participent au salon Vivatech, une référence mondiale dans le domaine de l'innovation. En début d'année, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sous l'égide de Christopher Gigès, membre de l'exécutif en charge notamment du numérique, avait fait un appel à candidature pour former la future délégation calédonienne. Pour la première fois, cette délégation comprendra des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur. Les précisions de Christopher Gigès.
Ça fait 3 ans qu'on y est. Même l'année dernière, on avait réussi à être présent au plus grand salon de la tech. Et donc, on a beaucoup de startups cette année qui sont liées à l'intelligence artificielle. On a Fire Tracking qui est pour détecter des feux grâce à l'intelligence artificielle. On a Visioun qui est une startup qui fait de la reconnaissance par l'intelligence artificielle des poissons. On a l'intelligence artificielle dans la médecine. Donc, on a des très belles entreprises en Nouvelle-Calédonie. On est très fiers de les avoir et on est très fiers qu'elles puissent aller à ce salon Vivatech, où ils vont pouvoir trouver à la fois des investisseurs, mais également montrer une visibilité de la Nouvelle-Calédonie qui est différente de ce qu'on a connu les derniers mois.
L'objectif à terme de la délégation sera d'établir des partenariats internationaux et de promouvoir la marque New Caledonian Tech. Rappelons que Vivatech rassemble chaque année plus de 13 000 startups, 150 000 visiteurs et des milliers d'investisseurs et décideurs du secteur technologique. Il est 18h passé de 7 minutes, une dernière pause publicitaire avant de parler du programme Proxicité de la ville de Nouméa pour proposer des activités aux jeunes des quartiers pendant les vacances.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Mickaël Gineski.
Le dispositif Proxicité anime les quartiers de Nouméa du 10 au 13 juin avec un programme d'activités socio-éducatives pour les enfants et les jeunes de 8 à 26 ans, Charlotte Coulson.
Installée chaque jour sur une dizaine de sites, cette initiative propose des ateliers créatifs, d'expression ou encore des animations nature. Le but, renforcer le lien social et la cohésion entre générations. Et ce matin, c'est la maison de la biodiversité de Magenta qui a accueilli l'opération. Angélique, animatrice, nous en dit plus sur ses missions.
Ici, en fait, on propose tout ce qui est en lien avec l'environnement. Et on sait très bien qu'il y a pas mal de choses très intéressantes au sein de la ville. Donc, notre but à nous, c'est de pouvoir transmettre au public tout ce qui est en lien avec la mangrove qui est juste à côté, les forêts sèches, Wantourou. La fréquentation ici à la maison de la biodiversité, elle prend tout le monde, tout public, à partir des tout petits jusqu'au plus senior, plus grand. Et aux familles et les personnes en situation de handicap. Donc nous, on propose durant le mois des ateliers sur un thème précis qui dure pendant 3 mois. Par exemple, aujourd'hui, on est sur le littoral. Donc c'est pour ça que pour cette semaine de vacances, c'est une organisation, une animation autour de ce qui est en lien avec la mangrove.
Et sur place, plusieurs groupes d'enfants sont venus participer à ces activités à thème. Une manière ludique de sensibiliser à la préservation du vivant.
Clémentine, elle nous distribue 3 cartes. Après, avec les images, ben, on doit regarder nos 3 cartes. Et si, par exemple, cette image, elle représentait un poisson et de l'eau, ben, avec la mer, ben, on peut mettre une image qui représente des poissons et de l'eau. Enfin, ça parle des mangroves.
C'est une plante qui vit dans l'eau. C'est pour cacher des petits poissons.
On a joué à des jeux, des sociétés. On a fait des activités, de la marche et de la lecture.
Et la participation au dispositif Proxicité est gratuite pour tous. Les jeunes de 8 à 17 ans doivent avoir tout de même l'accord des parents.
Demain, c'est le retour du jeudi du centre-ville organisé par la ville de Nouméa, la place des Cocotiers qui sera aux couleurs de Wallis et Futuna. À cette occasion, plus de 70 exposants vous feront découvrir leurs spécialités culinaires et leur artisanat traditionnel. Henri Fakatika est le président de l'association Wallis et Futuna.
C'est toujours les mêmes plats traditionnels, pas les couchons, les plats qui ont été préparés à l'aide de la farine et le lait de coco. On appelle ça le faikai, le loup, tout ce que vous voulez, tout ce qui est culinaire. Après, il y aura l'artisanat. L'artisanat, c'est sur le savoir-faire des mamies, des mamans, c'est-à-dire ceux qui savent confectionner des chemises, des pareos, avec plusieurs façons à eux de coudre. Le gros morceau, on va dire ça comme ça, c'est l'animation. C'est eux qui vont faire vivre la journée de demain. Bien entendu, successivement, il y aura des groupes qui vont se valoir devant la scène au niveau des danses. Et puis après, il y aura des animations musicales avec des groupes locaux. Et il y a, comme c'est une coutume maintenant, il y aura le défilé de mode des mamans. C'est-à-dire que chaque maman qui va venir défiler avec le fruit de leur travail, c'est-à-dire avec leur robe, manou, leur tenue traditionnelle.
Le jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna, c'est donc demain de 8h30 à 19h sur la place des Cocotiers.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Bouloupari, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Le sport, place au trail des Cagous ce dimanche. La 14e édition se déroulera à Bouloupari, en baie de Bouraquet. Au programme, 4 parcours, 5 km 5, 11 km 5, 24 et enfin le trail Sfac de 62 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Un événement sportif donc, mais surtout convivial. Laurent Deveau est le directeur de course.
Ça a déjà été un plaisir pour moi d'aller dans des endroits où j'aurais pu jamais accéder grâce aux propriétaires et de découvrir effectivement des endroits qui sont juste somptueux. Entre les passages en ligne de crête où on a une magnifique vue sur la barrière de corail, mais également des passages en forêt, notamment, il faut savoir quand même le grand parcours, il part du bord de mer, il va faire le tour du Huitchambeau, donc au pied du Mondo, et il revient donc sur 60 km. Puis ensuite, il y a tous les parcours familiaux qui sont près au bord de mer et qui sont une vue mer en permanence. En passant à côté des bassins à crevettes, en passant à côté de plein d'endroits. Donc, ça va être magnifique.
Et près de 1000 personnes ont déjà leur dossard pour ce trail des Cagous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, rendez-vous sur le site internet inlife.nc. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à minuit. De la voile, J-4 avant le grand départ de la New Caledonia Groupama Race. Départ qui sera donné ce dimanche entre 10h et 10h30 de Nouméa en face du rocher à la voile. Ce soir, la traditionnelle régate au sunset se déroulait au large de Nouméa pour voir la parade des 23 voiliers qui participeront à la Groupama Race. 19 bateaux calédoniens, 2 australiens et 2 néo-zélandais. Du football pour terminer, la sélection des moins de 20 ans de Nouvelle-Calédonie a écrasé Yengensport hier en match amical. Les joueurs de Pierre Wadjoka se sont imposés 7-2. Un second match amical était organisé cet après-midi à 15h contre Pointe-d'Imier. Je rappelle que les moins de 20 ans continuent leur préparation à la Coupe du Monde au Chili fin septembre. Ils sont dans la poule de la France, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. 18h13, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les prévisions météo, c'est avec vous Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Mickaël. Alors cette nuit, un ciel couvert en altitude se maintiendra en début de nuit, puis les nuages commenceront à se fragmenter sur l'ouest en cours de nuit. De faibles ondées se déclencheront par endroits sur l'ouest, la pointe nord et au Loyauté. Le vent de secteur sud sera généralement compris entre 5 et 10 nœuds. Il dépassera localement les 10 nœuds sur la pointe nord. Les températures oscilleront entre 19 et 22 degrés. Demain matin, le ciel restera encore majoritairement décidément nuageux, même si la couverture nuageuse deviendra moins dense et laissera parfois la place aux éclaircies, en particulier sur la façade ouest. Quelques gouttes sont attendues sur l'extrême nord et au Loyauté. Le vent s'orientera sud à sud-est et se maintiendra entre 5 et 10 nœuds. Il dépassera localement les 10 nœuds aux pointes de la Grande Terre et au Loyauté.